France Inter, le 18-20.
Les indemnités prud'homales désormais plafonnées. À moins de 50 salariés, on pourra négocier sans personnel mandaté. Le CDI de chantier est donc ouvert. Les instances du personnel fusionnent. L'employeur d'une entreprise aura parfois la main sur le référendum. Voici quelques grandes lignes de cette loi travail dont on a les ordonnances désormais. À vous de nous emmener sur le terrain qui est le vôtre. Vous êtes chef d'entreprise, salarié, syndicaliste. On a envie de vous entendre. Témoignez aussi de la vie de votre entreprise. Et c'est parti.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et c'est Rémi le premier. Rémi, bonjour. Dites-nous qui vous êtes, où vous êtes et quelle est votre question.
Bonjour.
Sans donc, faire des
Rémi de Voiron. En dehors de ça, je suis aussi élu au comité d'entreprise dans ma boîte. Uh-huh. Et en fait, ce qui me surprend quand même, c'est que donc j'ai une grande communication du gouvernement sur la concertation, de discuter très longtemps. Et au final, j'ai quand même l'impression que les ordonnances sont complètement déséquilibrées, puisque tous les avantages sont pour les entreprises qui pourront licencier sans entrave. Et les salariés, eux, auront tous les inconvénients, c'est-à-dire le droit d'être licenciés sans entrave. Donc j'ai beaucoup de mal à voir ce que les salariés ont gagné et ont à gagner dans ces discussions. Les chômeurs gagneront très certainement des boulots mal payés, très précaires, comme ça a été évoqué dans l'heure précédente. Donc j'ai beaucoup de mal à voir en quoi ces ordonnances permettre de répondre à la culture du gagnant-gagnant dont le président veut être le héros.
Eh ben, on a entendu votre question, Rémi. Pour vous répondre ce soir, tiens, Jean-Michel Potier, puisque c'est à vous qu'on s'adressait directement, je vous présente le premier. Vous êtes chef d'entreprise, vice-président de la CPME. Catherine Perret, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Et Sandrine Foulon est là aussi autour de la table. Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques. Et puis, on vous entend évidemment tous les samedis On n'arrête pas l'écho avec Alexandra Ben Saïd à 9h. Jean-Michel Potier, c'est à vous qu'on va s'adresser d'abord. Vous êtes le chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque de Rémi qui, lui, voit pas très bien en quoi cette réforme peut être équilibrée? J'imagine que de votre côté, vous y voyez une pointe d'équilibre.
Je pense qu'il faut bien lire le texte, hein, parce que là, c'est un espèce de résumé raccourci qui ne regarde absolument pas ce qui se passe dans le détail. Dans le détail, on augmente de 25% les indemnités de licenciement. Alors, si c'est ça, faciliter les licenciements, à mon avis, je suis pas sûr.
J'entends Catherine Perret à côté de vous qui dit et on plafonne les prud'hommes. On peut faire pile et face d'un côté comme de l'autre.
Attendez, on plafonne les dommages et intérêts et non pas les indemnités, les dommages et intérêts accordés par le juge en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Mais allez-y, Jean-Michel Potier, parce que je vous ai interrompu. Donc, où vous la trouvez-vous équilibrée? Vous avez commencé par citer effectivement les 25% d'indemnités licenciement. Le deuxième point qui vous paraît équilibré, allez-y.
Ah ben moi, ce qui me paraît équilibré, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'à la fois, on apporte de la sécurité aux différents acteurs, par exemple en renforçant le rôle de la branche professionnelle et de manière très forte, et en balisant tout ce qui va être de nature à assurer le respect de conditions concurrentielles équitables dans un secteur économique entre les entreprises qui la composent. Donc ça protège les salariés et ça protège aussi leurs entreprises. Et en TPE-PME, vous savez, quand je dis les salariés et leur entreprise, je veux dire, on est dans quelque chose commun. Le chef d'entreprise dans une petite entreprise, il travaille avec ses salariés, au milieu de ses salariés, avec les mêmes conditions de travail. Donc, il a besoin d'être protégé comme pourraient l'être ses salariés. Et puis... Une troisième chose...
Avant qu'on passe à quelqu'un d'autre.
Une troisième chose qui est intéressante, c'est qu'on favorise le dialogue social. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait une inégalité de traitement entre les grandes et les petites entreprises. Là, dans les entreprises de moins de 50, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir passer des accords. Des accords majoritaires, hein. Il faut trouver des personnes pour les signer, donc il ne s'agit pas d'imposer...
Et à moins de 50 salariés, vous pourrez les passer sans représentation syndicale, donc ça aussi c'est une grande nouveauté.
À moins de 20, puisque là on a quasiment pas...
Non, les négociations sans mandat, c'est jusqu'à 50, on est d'accord, j'ai compris la même chose
que
vous.
À 100 mandats, c'est jusqu'à 50,
on est d'accord.
Et sans représentant du personnel,
c'est moins. On peut avoir un mandat, mais c'est plus obligatoire.
Voilà. Tout à fait.
Sandrine Foulon, je vous voyais réagir pendant que Jean-Michel Potier parlait. En toute objectivité, si on prend juste dans la main droite, dans la main gauche et qu'on fait une balance comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans quelque chose d'équilibré ? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ?
Non, aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré. Rémi a raison. En fait, on n'est pas dans un modèle de flexi-sécurité. Vous avez cité l'augmentation des indemnités légales de licenciement. C'est très bien. Aujourd'hui, pour être concret, par exemple, vous avez droit à un cinquième par de mois d'ancienneté
par
année de présence. Exactement. Ça passe à un quart, donc une augmentation de 25%. C'est très bien, ça touche beaucoup de monde. On parle bien d'indemnité légale, pas de litige quand on va au prud'homme, mais de dommages et intérêts. Mais à part ça, on a aussi des choses intéressantes sur le télétravail. Mais sinon, c'est de la flexibilité qui est demandée quand même à tous les étages. Et je ne sais pas si Rémi travaille dans une petite entreprise, mais effectivement, la vraie rupture de cette loi travail, c'est la différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises.
Bah Rémi, attendez, on va vous poser la question. Vous travaillez dans une entreprise de combien de salariés ?
Ouh là là, non, dans une très grosse entreprise dans laquelle les conditions de dialogue sont jusqu'à présent à peu près raisonnables. Mais pour revenir aux discussions, on a vu juste à côté de notre entreprise les accords majoritaires. Ce que ça donne, bon, en fait, c'est du chantage à l'emploi. Donc là-dessus, de toute façon, il y a une subordination entre le patron et les salariés qui, de toute façon, se retrouvera dans les discussions.
Et Rémi, tant que je vous tiens, puisque vous êtes là, après, je vous promets, je vous laisse partir, puisque je vois que vous êtes aussi représentant du personnel, vous êtes concerné donc du coup aussi par la fameuse fusion délégués syndicaux, délégués du personnel, CE, CHSCT dans le même groupe, vous êtes concerné par ça ou pas ?
J'ai pas réétudié dans le détail vu que l'été est passé par là. Donc non, j'ai pas encore on sait pas encore exactement comment ça va se traduire dans notre entreprise.
Bah vous l'êtes puisque, pardon, si j'ai bien compris, moi, à plus de 50 salariés, on fusionne en fait.
Exactement.
Donc vous êtes concerné. Renseignez-vous d'urgence, Rémi, vous êtes concerné. On va vous donner la parole dans un instant. Merci beaucoup, Rémi. Catherine Perret, je voudrais qu'on retourne au standard. Écoutez Quentin. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir, France Inter. Et bonsoir aux intervenants.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors moi j'avais une petite question en fait à poser aux deux intervenants.
Mm-hmm. Ils sont trois, mais allez-y.
Oui, les trois, excusez-moi. donc moi je viens de créer mon entreprise, c'est tout récent, j'ai pas de salarié encore, j'ai pas encore de stagiaire, donc je me lance dans l'entrepreneuriat. Et la question c'est la suivante, c'est est-ce que vous pensez pas que ces ordonnances, ce projet de loi, ça va être au fond une bonne chose pour le chef d'entreprise qui en fait est un peu le leader de ses troupes. On est clairement d'accord que là, je pense que ça se positionne plus du côté du chef d'entreprise que des salariés. Donc c'est forcément évident qu'on entende les syndicats monter au créneau. Certains ont dit oui, certains disent non. Mais moi, la question est la suivante, c'est est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est une bonne chose pour l'entreprise, pour le créateur de richesse à la base, qui est donc du coup le créateur de l'entreprise, qui du coup a embauché au tout début un salarié, plus deux salariés, avant d'embaucher un salarié, on embauche un stagiaire, ensuite peut-être un contrat d'apprentissage, ensuite peut-être un CDI, des CDD, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas finalement que c'est une bonne chose pour le chef d'entreprise, pour l'entreprise, pour le dialogue en entreprise, pour la communication entre les différentes entités de l'entreprise, parce que faut pas se voiler la face que aujourd'hui, si on n'arrive pas à communiquer dans la vie, on n'arrive à rien. Moi, j'étais, c'est vrai, j'ai largué un peu le truc, mais j'ai eu la chance de partir en Asie pendant 6 mois. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, des Cambodgiens qui étaient formidables et avec la main sur le cœur, le sourire. Et à certains moments, on n'arrivait pas à communiquer. Et dans cette communication, du coup, on bloquait. Et moi, je pense que ces ordonnances et ce projet de loi, ça va être une bonne chose pour la création de richesses, donc pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Et du coup, je voulais avoir un peu l'opinion des intervenants.
On va leur demander tout de suite. Merci.
Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour l'entreprise.
Merci beaucoup de votre témoignage, Quentin. Tiens, Catherine Perret, vous qui n'avez pas pris la parole encore, secrétaire confédérale de la CGT, ça résonne à vos oreilles, j'imagine, une partie de ce qu'il dit, en tout cas, résonne à vos oreilles, une partie de ce que dit Quentin.
Je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations et de confusion dans ce que dit Quentin, parce que c'est pas bon pour l'entreprise. De quelle entreprise on parle ? Petite, moyenne, très grande entreprise ? Nous, à la CGT, on a le sentiment que c'est très mauvais pour les salariés, mais c'est aussi, surtout, finalement, assez bon pour les très grandes entreprises et générateurs de concurrence pour les entreprises petites et moyennes. Et donc, au bout du compte, c'est pas bon pour les salariés des petites et moyennes entreprises qui vont être mis sous pression. Je pense aussi également aux régions et aux bassins d'emploi dans lesquels on va avoir sans doute beaucoup de pertes d'emplois. Et c'est donc pas bon pour l'économie d'un point de vue général. C'est sans doute pas bon donc pour l'entreprise qu'il est en train de créer.
Sandrine Foulon, en creux, quand j'écoute ce que disait Quentin à l'instant, en creux, est-ce que vous entendrez la même chose que moi ? J'entends qu'on est passé peut-être à une sorte de philosophie désormais en France qui dit qu'il faut faire accepter que c'est le patron qui a la main et que c'est comme ça que les choses se passent. Est-ce qu'on se trompe dans cette interprétation ? C'est peut-être un peu raide, mais est-ce que ça veut dire ça finalement, ces ordonnances ?
Oui, ça veut dire ça. Enfin, en tout cas, pour les petites entreprises, c'est une vraie rupture. C'est ça la révolution. Il y a beaucoup de mesures dont on peut parler, mais la révolution, elle se situe sur le dialogue social dans les petites entreprises. On considère aujourd'hui, et Quentin le dit, que finalement, on peut dialoguer en famille, sans syndicat. Or, en fait, il faut quand même rappeler que les syndicats ne sont pas nocifs à la performance économique d'une entreprise. Et quand on parle de renforcer le dialogue social, ça ne veut plus dire les syndicats, ça veut dire des salariés, ça veut dire, par exemple, dans des entreprises, alors Quentin va faire une toute petite entreprise, mais ça veut dire que lui, il pourra décider unilatéralement de mesures qui concernent le temps de travail.
Enfin, lui, il est tout seul, là, le pauvre Quentin, là, pour l'instant.
Oui, mais on espère pour Quentin.
Il n'a pas de stagiaire non plus. Donc,
Mais on espère pour Quentin qu'il aura 3, 4, 5 salariés. Et en fait, quand il va décider de faire un accord sur les primes d'ancienneté, aujourd'hui, ce serait l'accord de branche qui prime, parce que faute de déléguer du personnel, eh bien, en fait, c'est les accords de branche. Mais là, demain, il va pouvoir lancer une espèce de consultation directe. On va se réunir comme autour d'un repas de famille et on va dire, voilà, vous êtes OK. En plus, en ce moment, ça va pas très bien. Donc, vous êtes d'accord pour travailler un peu plus, pour geler vos salaires, pour voir cette prime. Et ça, c'est pas nécessairement bien pour les salariés. Et puis, ça veut dire aussi que depuis la création de la section syndicale, depuis 68, on est en train de tourner, de changer complètement de philosophie, et c'est très important.
Catherine Perret, allez-y, pardon.
C'est justement pas donc un renforcement de la branche, bien au contraire. Il y a une chose très grave, par exemple, dans ce projet de loi, c'est la possibilité désormais, ce que n'avait pas osé la loi El Khomri, en cas d'accord d'entreprise qui baisse la rémunération ou qui augmente le temps de travail sans compensation, de licencier purement et simplement. Auparavant, le salarié qui n'acceptait pas un avenant modifiant son contrat de travail, eh bien, l'accord d'entreprise ne s'appliquait pas pour lui. Demain, si le projet de loi passe, c'est purement et simplement licenciement pour ne pas avoir accepté la peste ou le choléra, c'est-à-dire la baisse de la rémunération et l'augmentation de son temps de travail. En sachant qu'on met pour les grandes entreprises le périmètre national comme possibilité pour mettre en place, apprécier un licenciement économique, c'est extrêmement grave. Hein.
Vous, ça vous parle, ce fameux périmètre, vous, y compris les PME ou pas ?
Le périmètre national sur l'appréciation du caractère économique du licenciement concerne vraiment essentiellement les grandes entreprises.
Mais oui, bien sûr que ça concerne les grandes entreprises, mais il y a tout de même un maillage autour. Enfin, il se passe des choses autour de ces grandes entreprises.
Oui,
donc,
ça concerne par ricochet les sous-traitants, mais ça, on est dans quelque chose d'autre. Enfin, mais moi,
c'est
j'entends.
C'est pour ça que c'est pas bon pour l'emploi.
Le discours que j'entends là de mes deux chères dames autour de moi, c'est l'incroyable cruauté des employeurs et alors les buveurs de sang que sont les chefs d'entreprise de TPE, PME. Ben si, on entend ça. Et donc, moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
Elles ne sont pas si méchantes.
Je le redis, est-ce que ces chefs d'entreprise ont licencié massivement leur personnel pendant la crise économique ? À l'évidence, non. Je veux dire, quand un chef d'entreprise de PME embauche, c'est pas pour avoir le plaisir, je ne sais pas, un plaisir d'ailleurs qui serait assez malsain, de pouvoir dire « je vais pouvoir licencier un jour ». Certainement pas.
Mais Jean-Michel Potier, pardonnez-moi, vous avez une entreprise, vous voyez désormais ces ordonnances qui sont là, donc voilà la philosophie, voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous vous dites « très bien, demain j'embauche ».
Alors, demain je sécurise mes relations dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, dans ces entreprises, il y a beaucoup d'accords tacites. Non. J'y viens. Je vais répondre à votre question.
Allez-y.
Mais je sais, il y a des paliers.
Oui, bien sûr.
L'application de la loi, elle n'est pas encore promulguée. Donc, me dites pas, ça y est.
Septembre.
Septembre, et après, il faut la mettre en place. De toute façon, il y aura un temps de latence qui sera entre 1 et 2 ans, à mon avis, avant 18 mois, pour qu'on mesure les effets. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va permettre à des entreprises qui, jusqu'ici, faisaient des accords tacites avec le personnel, de pouvoir révéler ce dialogue social qui existe, et de le formaliser, et dans des conditions de droit. C'est-à-dire que, comme il y aura des accords d'entreprise, on pourra vérifier en droit s'ils correspondent bien à la loi. Alors que quand aujourd'hui on est dans de la corde tacite parce qu'on peut pas faire autrement, on vérifie rien du tout. Donc moi je pense que ça va sécuriser un peu les salariés cette affaire. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on va changer le rapport de force. On va changer le rapport entre les acteurs, développer le dialogue social, ouvrir les vannes du dialogue social. Ça va créer deux choses. Un, premièrement, un climat de confiance. Et on sait bien que l'embauche, notamment dans les petites entreprises, elle ne fait que si on a de la visibilité et de la confiance. Et puis deux, on va faire un magnifique appel d'air par rapport aux organisations syndicales qui ont un rôle à jouer, parce que quand les salariés de ces petites entreprises seront en difficulté, bah naturellement, ils vont se tourner vers leurs organisations syndicales pour avoir du renfort.
Alors justement, tiens, on va aller peut-être dans le sens inverse, mais un peu dans ce que vous venez de dire quand même, et dans le sens inverse de ce que disait tout à l'heure Catherine Perret, il faut tout entendre. Cécile, vous êtes avec nous sur France Inter, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir France Inter. Je voulais vous remercier parce que vous êtes une excellente radio.
Eh bien, merci.
Voilà, donc moi, mon témoignage est celui-ci. J'ai été très longtemps déléguée du personnel et secrétaire du comité d'entreprise. Mais tout cela sans être syndiquée. Et lorsqu'il y avait les NAO, je me suis aperçue qu'il fallait être syndiquée pour participer à ces négociations.
Négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
D'accord.
Voilà, donc je me suis syndiquée. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que, en étant élu représentant du personnel, je pensais avoir les mêmes droits que quelqu'un qui était syndiqué. Eh bien, pas du tout. En France, il faut être syndiqué pour pouvoir avoir ces droits-là. Donc moi, je pense que c'est une excellente réforme dans la mesure où, en étant délégué et élu du personnel, on peut participer au même titre que les gens qui sont syndiqués, vu que les syndicats ne représentent plus la majorité des salariés.
Cécile, on va vous répondre dans un instant. D'abord, Sandrine Foulon, on fait un petit contresens peut-être. Il faut que vous nous remettiez un petit peu dans le droit chemin avec cette question.
Non, alors moi je suis pas juriste, mais un délégué du personnel est un salarié protégé. Il a des droits au même titre qu'un délégué syndical.
En même temps,
il n'a pas le droit de négocier. Ça, c'est clair.
Sauf dans cette réforme et pour les entreprises de moins de 50.
De moins de 50 salariés. Et en même temps, pour rebondir sur ce que disait Céline, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent, Catherine Perret, sur cet aspect-là. C'est vrai que le pourcentage de salariés qui sont syndiqués est très bas. C'est vrai qu'on va même vers des chiffres qui sont de plus en plus bas. Donc, je vais dire le mot terrible, la légitimité, on va dire, au moment de ces négociations-là, elle se pose. En tout cas, cette question est posée par beaucoup d'auditeurs. Qu'est-ce qu'on répond à ça, à ce pourcentage aussi bas? Et est-ce que vous vous dites, parce que c'est aussi ce que disait en creux Emmanuel Macron, est-ce que vous vous dites que, peut-être que cette loi-là peut amener les gens à se syndiquer, puisque désormais ils pourront être formés par un syndicat, il y aura une création d'observatoire de la négociation collective, etc. Est-ce que ça vous aide ou pas?
Non, mais il faut se poser la question de pourquoi il y a aussi peu de salariés qui sont syndiqués dans le pays. Nous, on a amené des éléments très précis dans les propositions qu'on a remis à Mme Pénicaud dès le début des discussions, et notamment en démontrant que c'est dangereux en France de se syndiquer et d'agir dans l'entreprise.
C'est dangereux de se syndiquer, pourquoi? Pardon.
Parce qu'il y a des centaines de salariés qui sont discriminés, qui sont licenciés, qui sont malmenés. Et on a des listes qu'on a amenées, d'ailleurs, à Mme Pénicaud, montrant tous ces salariés qui sont pas protégés. On avait demandé, par exemple, que soit inscrit dans le projet de loi que un salarié, avant des élections délégué du personnel, puisse être signalé à l'inspecteur du travail pour être protégé avant d'être élu. Parce que tant qu'il n'est pas élu, il n'est pas protégé. Et souvent, entre le laps du temps au moment où il se déclare dans l'entreprise, souvent dans les petites et les moyennes, parce que c'est pas le monde des bisounours, Jean-Michel, et le moment où il est élu, eh bien, on lui trouve une insuffisance professionnelle, on lui trouve une faute professionnelle. Donc c'est vraiment difficile. Et puis pour répondre à la représentativité, la représentativité, elle se mesure par des élections. Nous, à la CGT, on défend la consultation des salariés, justement, sur le cahier revendicatif. C'est pas la même chose qu'un référendum, mais nous n'avons pas peur d'obtenir un mandat dans l'entreprise, après consultation des salariés, pour pouvoir négocier par rapport à ce qu'ils souhaitent obtenir.
Et peut-être que ça nous amènera sur le terrain du référendum. Justement, un mot d'abord, Sandrine Foulon.
Ben, en fait, il y avait deux manières de procéder. C'est-à-dire que le constat, il est partagé par tout le monde. Il y a une très faible syndicalisation. Effectivement, dans les moins de 50, il y a 4% de délégués syndicaux. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais il y avait deux choses. Soit on se mettait autour de la table et on disait comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de délégués syndicaux, de délégués du personnel dans les entreprises. Parce qu'il y a une vraie crise des vocations. On pouvait imaginer plein de choses. On pouvait dire, on peut on peut aller vers un système à la scandinave où il y a une syndicalisation mm-hmm. obligatoire, c'est-à-dire que pour bénéficier des accords qui sont signés, des modalités d'un accord, vous devez être syndiqué. Ça dope les adhésions. Vous pouviez, le chèque syndical, vous n'êtes pas tous d'accord, les syndicats, sur le dispositif, mais on pouvait réfléchir à plein de choses. Augmenter la présence de salariés dans les conseils d'administration, ça concerne plus les grandes entreprises, mais aujourd'hui, c'est à la portion congrue. On nous parle de l'Allemagne, du modèle social allemand. Au bout de 5, à partir de 5 salariés, on peut créer un conseil d'entreprise. Tout ça, on n'y va pas. On constate qu'il n'y a pas de syndicalisation, de représentativité. Donc, la philosophie qui est prise, c'est faute de délégués syndicaux, on fait 100. On les contourne, donc on choisit une autre façon. Donc après, le pari, c'est est-ce que on va se tourner vers les syndicats ? On peut quand même en douter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et c'est vous, Martial, qui avez composé le numéro. Vous êtes donc en direct sur Inter. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une question qui va vous paraître d'une très très grande naïveté.
Non, jamais. Allez-y.
Voilà, j'ai 50 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans par l'apprentissage. Autant vous dire que j'ai vu passer pléthore de réformes du travail, du code du travail, et je n'ai vu que le chômage s'accroître. Je n'ai jamais vu une réforme faire de l'emploi, jamais. Alors, j'aimerais quand même qu'on nous explique en quoi celle-ci allait créer de l'emploi, puisque moi, depuis mon premier salaire date depuis 1984, excusez-moi, je suis un peu ému de passer à la radio. Et en quoi, ben voilà, cette réforme-là en particulier créerait de l'emploi là où aucune autre n'y a réussi. Et puis, toute petite remarque aussi sur l'absence de syndicats lors de négociations dans des entreprises de petite taille. Je veux dire que moi, lorsque je me tourne vers un délégué syndical, et ben il est en capacité de me dire, ben tu vois Martial, le texte il dit ça, la loi elle dit ça. Un employé il est pas un fin connaisseur des textes qui régissent le travail. Donc je pense que le patronat là, va pouvoir négocier de manière extrêmement confortable. La question la plus importante était celle
était la première. Et on a bien compris. Jean-Michel Potier, notamment, vous a écouté. Vous êtes chef d'entreprise, vice-président de la CPME. C'est pour vous cette question. En quoi celle-là, plus que les autres, a une chance de faire baisser le chômage ?
Bah écoutez, regardez ce qui s'est passé en Europe. Il y a des pays où on a fait des réformes importantes du Code du travail, qui ont mis un peu de temps pour faire des effets, mais qui ont eu des effets positifs. Alors parfois, en réduisant la sécurité du travail, ce qui n'est pas le cas de la réforme française. Par exemple, en Allemagne, il y a encore des mini-jobs à 400 euros, il y a encore des droits progressifs au CDI, il y a des droits progressifs au CDI en Italie, où il y a une période d'essai qui peut aller jusqu'à un an en Espagne. On est loin de tout ça. On n'a retiré aucun de ces aspects, de ces sécurités pour le travailleur au niveau de cette réforme. Donc on est très loin. Ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise de TPE-PME, j'en ai plein, j'en vois toutes les semaines. Faites des travaux, faites venir des artisans chez vous, ils vont vous dire « Ah, je ne veux plus prendre d'apprenti, c'est trop compliqué. Je ne veux pas prendre, je vais pas mettre en route une deuxième camionnette pour faire des... » Parce que je prends trop de risques, c'est trop dangereux, c'est trop incertain. Et ce qu'il faut, c'est sécuriser pour avoir de la visibilité. Et la visibilité va créer de la confiance. La confiance, la confiance, j'ai confiance et donc je me développe. Je sais... quand ça va bien, comment ça fonctionne? Quand ça va mal, comment je peux m'en sortir? Et je vais donc pouvoir développer mon entreprise de manière beaucoup plus sereine. Je crois que ce qui est important, c'est un dialogue serein et non pas contraint comme celui qu'on veut nous imposer aujourd'hui.
Et peut-être qu'on sait aussi quand même, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi aussi, Jean-Michel Potier, Sandrine Foulon, ça suffit pas, une loi de travail, quelle qu'elle soit. Non, en fait, de toute façon, pour faire bouger les lignes, non?
Non, mais Édouard Philippe l'a rappelé. Il a dit que le code du travail n'était pas la première cause du chômage. On était content de l'entendre, mais c'est quand même, la philosophie, ça a été quand même même de dire on va faciliter les licenciements pour créer l'embauche. Et Martial a absolument raison, sa question n'est pas du tout naïve. Il constate ce que constatent beaucoup d'économistes, y compris des experts de l'OCDE. Il y a une décorrélation entre l'assouplissement du code du travail et l'emploi. On sait que ça ne crée pas nécessairement de l'emploi ou de l'emploi de mauvaise qualité, comme on a pu voir en Italie ou en Espagne, où on a dérégulé. Alors, et c'est une autre aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Vous pouvez créer des emplois, mais précaires. Donc là, est-ce que cette réforme changera les choses? A priori, on peut en douter. S'il faut légiférer juste pour des déclics psychologiques, encore une fois, on peut en douter. Mais il y a des mesures comme la barémisation des indemnités prud'homales. Ça, on le fait en Espagne, en Italie et on le fait en France. Et ça peut inciter aujourd'hui des employeurs à licencier plutôt qu'à recruter. C'est un pari. Personne ne vous dit que ça va se faire, mais quand on légifère et quand on change les curseurs, il faut s'attendre à que des gens s'en emparent.
Cette affirmation n'engage que vous-même. Hein,
parce mais que je n'affirme
ne vois
rien,
pas.
Je doute.
Non, mais je ne vois pas en quoi les mesures qui ont été proposées vont faciliter le licenciement. Augmenter les indemnités de licenciement de 25%, ça ne va pas faciliter. Le barème derrière, c'est arrêter soit la loterie, soit...
Quand vous permettez à un employeur de provisionner exactement le coût de la violation de la loi, quand vous savez que pour 2 ans d'ancienneté, il va payer X mois de salaire, vous pouvez le provisionner. Et vous pouvez vous dire, tout le monde n'est pas un buveur de sang, comme vous le disiez tout à l'heure, mais c'est possible.
Catherine Perret, vous vouliez intervenir très vite, et puis après on ira rejoindre Antoine au standard. Allez-y.
Oui, ce projet de loi, il ne va pas résoudre le chômage. Et puis, je voudrais faire remarquer quand même qu'aujourd'hui, pour embaucher, les employeurs disposent de 22 types de contrats à durée déterminée. Donc, avec ça, je pense qu'il y a possibilité d'avoir une visibilité sur le carnet de commandes.
Antoine, c'est à vous. On vous écoute. Bienvenue.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre mon appel. Je voudrais, à travers mon intervention, faire un peu de droit. Je pense que c'est essentiel. Concernant en fait très précisément le plafonnement et le plancher des indemnités prud'homales à la suite d'un licenciement abusif.
Dommage et intérêt.
Mais licenciement abusif quand même.
Dommage et intérêt, voilà. Dit Jean-Michel Potier. Mais allez-y, continuez.
Licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse. Tous les mots ont importance en droit.
Allez-y Antoine. Absolument. Allez-y. Ne vous laissez pas décontenancer.
Il y a dans la Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans ce texte, un article 4 qui consacre le principe de la pleine réparation et de la complète réparation du préjudice subi. Et à mon sens, le Conseil constitutionnel, quand il va opérer son contrôle a posteriori sur les ordonnances et sur la loi travail, il va censurer cette disposition en ce sens. Parce que instaurer un plafond et un plancher pour la réparation d'un préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc fautif, abusif, ce sera jugé anticonstitutionnel. Et je voulais avoir l'avis des intervenants ce soir sur cette question précise.
Alors merci beaucoup pour votre question, Antoine. Je ne veux piéger personne autour de cette table, puisque personne n'est constitutionnaliste. Ouais. Mais allez-y, Sandrine Foulon d'abord, et puis Jean-Michel Potier.
Non, mais ce barème, il a déjà passé le barrage du Conseil constitutionnel. Il a été retoqué parce qu'en fait, au départ, dans la première mouture, il était question de verser des indemnités, des dommages et intérêts en fonction de la taille de l'entreprise. Mmh. Et là, les sages du Conseil constitutionnel ont estimé qu'il y avait une rupture d'égalité. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une petite entreprise, il n'y a pas de raison que vous soyez touchiez moins d'indemnités que quelqu'un d'autre. Ensuite, on a fait un barème indicatif en fonction de l'ancienneté des salariés. Et celui-là, il est aujourd'hui indicatif, il va devenir obligatoire. Mais en tout cas, il a passé la barre du Conseil constitutionnel. Après, je ne vous dis pas que certains syndicats vont peut-être pas tenter d'aller déposer d'autres recours en fonction des conventions internationales. Ça, c'est autre chose. Il y aura certainement des batailles juridiques à mener. Mais au niveau du Conseil constitutionnel, pour l'instant, ça a passé la barre.
Ça a passé la barre.
Donc, oui. Très bien.
Pardon. J'attendais une phrase supplémentaire. Alors, j'ai deux questions très concrètes qui nous ont été envoyées sur franceinter.fr et que je voudrais vous soumettre. Bonjour, je souhaite savoir ce qui va se passer pour les personnes récemment licenciées sans cause réelle et sérieuse et qui n'ont pas bénéficié des 25% d'augmentation légale des plafonds de licenciement et qui attendent donc de passer au prud'homme, sachant que l'attente est d'autant plus grande qu'il va y avoir de nouvelles élections pour les conseils suivies de formation et que les indemnités seront désormais limitées à 20 mois de salaire. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en cours là,
a priori,
en fait,
c'est pas rétroactif. D'abord, il faut attendre que.
De toute façon, c'est dans le décret. Pour l'instant, c'est pas dans la loi d'habilitation, les 25%.
J'ai été licenciée en juin 2017. J'attaque mon employeur au prud'homme, une requête qui a déjà été déposée pour licenciement abusif. En quoi puis-je être impactée par cette réforme? Montant des indemnités de licenciement, plafond des dommages, etc. Est-ce que cette dame est impactée là aussi si on considère que la requête a déjà été déposée?
Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'au moment de, où elle sera audiencée, c'est-à-dire au moment où, où elle va aller devant le conseil de prud'homme, là, bah, en fonction de ce que dit la loi, elle aura un plancher et un plafond.
Mais, encore faut-il attendre les décrets d'application pour savoir quelles seront les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Est-ce qu'on aura un effet rétroactif par rapport à la date du litige? Rien n'est moins sûr. Donc aujourd'hui, ça, on n'est pas capable de le dire. Il va y avoir des discussions entre les partenaires sociaux et le ministère sur ces questions, comme à chaque fois qu'on sort des décrets ou des arrêtés. Mmh. Et ces discussions, à mon avis, risquent d'être fournies.
Une autre question concrète, c'est la vôtre. Hubert, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je vous téléphone. D'abord, formidable, hein, vos émissions, évidemment. Tout le monde, je rejoins les auditeurs précédents. Oui, voilà.
Vous avez
je
bien travaille raison,
dans
merci.
Merci. Je travaille dans le secteur médico-social. Je suis dans une entreprise de 900 salariés avec 30 établissements distincts qui couvrent des activités différentes, que ça peut être de l'accueil d'enfants, l'accueil de personnes en situation de handicap lourd et des secteurs de production, c'est-à-dire des ESAT. Actuellement, nous avons un comité d'entreprise commun, un CHSCT commun et des délégués du personnel par établissement. Je voulais savoir comment va s'articuler cette loi vis-à-vis de ce genre d'établissement qui couvre à la fois des activités très différentes et puis aussi des effectifs très différents par établissement.
Et c'est ça, parfois 100 salariés, parfois 50 salariés, donc parfois même moins. Est-ce qu'on sait comment ça marche, ça, déjà, Sandrine Foulon? Est-ce qu'on ne sait pas encore?
Ben non, on ne saura pas, mais c'est vrai qu'a priori, c'est la question de l'auditeur, d'un des auditeurs précédents, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion des instances représentatives du personnel. Donc après, il va falloir voir comment ça va s'articuler, mais tout le monde est concerné.
Là, de toute façon, là, c'est la même chose, il faut attendre les décrets, mais il n'y a pas de raison objective à ce que ça change profondément les choses, sauf que dans chaque établissement, il y aura une organisation unique de représentation, le conseil social et économique des salariés, et un conseil central. Ça, je pense que ça.
Ça, c'était pas calé encore. Moi, j'ai pas eu le temps de lire les 150 pages d'ordonnance ce matin, mais à la dernière bilatérale, cette question-là, elle était vraiment réelle, elle n'était pas calée. Parce que nous, justement, on disait qu'il fallait rester sur la proximité et la spécificité sur ce type d'établissement, et c'était pas encore arrêté. Donc, on peut penser qu'on fusionne au-delà d'un niveau d'établissement, et ce qui éloignerait les représentants des personnels, des salariés, dans un établissement aussi important que celui qui est décrit par l'auditeur.
Voici un autre exemple sur franceinter.fr. Les entreprises qui comptent de 11 à 49 salariés et qui doivent faire des élections professionnelles seront-elles dispensées d'inviter les syndicats représentatifs pour négocier le protocole d'accord préélectoral? Que se passera-t-il dans les TPE-PME qui n'auraient ni syndicats en interne ni même d'élus? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens ont plein de questions hyper concrètes. Ça veut dire que ça marche différemment, évidemment. Enfin, alors, dans chaque entreprise, on ne va peut-être pas exagérer, mais enfin, il se passe des choses très concrètes un peu partout sur les indemnités, sur les délégués, sur les pas délégués. Il y a beaucoup de trous quand même encore, non?
Non.
Vous trouvez qu'il n'y a pas de trous, enfin, M. Potier?
Sur la question qui est posée, à l'évidence, il y aura l'organisation d'élections dans les entreprises de plus de 11 et de moins de 50 salariés, avec une invitation formelle à négocier un protocole électoral avec les organisations syndicales représentatives. Ça, on ne change rien. Ce qui se passe simplement, c'est que si l'élection n'est pas fructueuse, et si il n'y a pas d'élus, et dans les entreprises de moins de 20 salariés, le chef d'entreprise va pouvoir dialoguer directement avec ses salariés. C'est ça la différence. Et dans les autres entreprises de moins de 50 et de plus de 20, sous réserve de bien avoir comment approfondir la lecture du projet de texte, eh bien, c'est avec le représentant du personnel que la négociation pourra avoir lieu.
Catherine Perret, vous vouliez intervenir?
Oui, parce que l'employeur va dialoguer.
Ça vous intéressait, vous allez voir.
L'employeur, il va dialoguer avec des salariés isolés, non protégés, extrêmement fragilisés. Je rappelle que c'est l'employeur qui donne l'emploi, c'est l'employeur qui licencie. Donc, il vaut mieux, pour négocier, avoir une protection syndicale. Et donc, moi, je suis très étonnée que les auditeurs posent des questions aussi précises. Ça démontre que les Français sont très très inquiet, et je dirais que nous, on appelle le 12 septembre à une grande mobilisation dans les entreprises.
ça me donne du coup au cœur,
parce que je pense que les salariés sont mûrs pour s'interroger et s'organiser.
J'attendais le moment où vous le diriez, mais vous avez raison, après tout, c'est votre travail, vous, puisque vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. J'ai quand même une autre question, tiens, très concrète, et là, c'est un chef d'entreprise qui nous parle. Chef d'une petite entreprise, j'aimerais augmenter le temps de travail et baisser les salaires. J'ai un leadership qui fait que mes salariés voteront ce que je demande ou pas. Jusqu'où puis-je aller ?
Il faut respecter la loi, tout simplement. Tout simplement. On a en tête, bien sûr, que cette réforme redonne une légitimité et une force à l'accord de branche, notamment sur des sujets aussi importants que les minima conventionnels.
C'est ce que j'allais dire, les branches restent. Hein. Donc, heureusement qu'on ne peut pas tout faire à l'intérieur de n'importe quelle entreprise.
Justement, pour éviter des dumpings sociaux. Et donc, là-dessus, c'est pas un permis de faire n'importe quoi.
Enfin, il y a quand même une inversion de la hiérarchie des normes qui a été initiée depuis la loi El Khomri sur le temps de travail. Justement, une entreprise peut négocier dans les curseurs qui sont établis par la loi. Si elle veut, par exemple, si on veut réduire la majoration des heures supplémentaires, on peut le faire. On peut pas descendre au-dessous d'un seuil, mais
sur des questions très concrètes comme la prime d'ancienneté qui constitue quelquefois 20 à 25% de la rémunération d'un salarié. Demain, on pourra négocier au niveau de l'entreprise et donc la branche pourra abandonner le taux de la prime d'ancienneté conventionnelle. Ça, c'est une sacrée perte pour les salariés. C'est vrai aussi pour le 13e mois. C'est vrai pour tout un temps de primes qui ne sont pas sanctuarisées dans la branche.
Et vous pensez que les salariés vont signer d'un seul homme ?
Mais non, mais là, il n'y a pas de délégué. Il est lui-même chef d'entreprise et il demande à jusqu'où il peut aller. S'il consulte ses salariés et qu'il leur dit...
Il ne peut pas faire un accord tout seul.
Mais il dit que ses salariés le suivent. Et s'il dit, par exemple, s'il arrive à dire, écoutez, la conjoncture n'est pas très bonne, là, mon carnet de commandes baisse, vous comprenez, on risque de licencier.
C'est peut-être aussi une question hypothétique, le pauvre.
Bien sûr, il a l'air de dire, enfin, si j'ai bien entendu la question, que ses salariés allaient le suivre. Donc en fait, sans contrepoint, sans justement un délégué syndical qui peut peut-être dire, écoutez, là, il ne faut pas aller jusque-là, les salariés vont peut-être signer dès demain.
Jean-Michel, vous avez entendu comme moi Madame Pénicaud prendre l'exemple ce matin à Matignon en disant, dans une start-up, si les salariés sont constitués plutôt de jeunes femmes et qu'ils préfèrent avoir une prime de garde d'enfants à la place de la prime d'ancienneté, ça sera possible. Moi, je dis, c'est dangereux.
Alors, il y a une dernière question.
Moi, Catherine, je pense qu'il faut continuer à faire des enfants si on veut sauver le régime de retraite. Mais bon.
Voilà, on est un peu sorti du sujet, hein, si je puis me permettre. Vous irez discuter ça devant un café, puisque vraisemblablement, vous connaissez. Je voudrais une toute dernière question, c'est celle de Marilyn, parce qu'il y en a beaucoup dans ce sens-là, ce qui permettra de tout de suite couper court à des idées reçues. Écoutez bien. Allez-y, oui. On vous écoute, Marilyn.
Oui, bonsoir. Je souhaiterais savoir si ces ordonnances vont avoir des répercussions pour les personnes qui ont le statut de la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, donc tout ce qui concerne les fonctionnaires, et ce qui concerne aussi les agents contractuels de droit public.
La réponse est non. Ça concerne les salariés... du secteur marchand.
Et effectivement, c'est le cas.
Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement va aussi en profiter à l'issue de ces ordonnances pour engager des modifications concernant ces différents statuts ?
Ces déréglementations sont une porte ouverte effectivement à une renégociation du statut, puisqu'il faut penser, un statut c'est les conventions collectives. Quand on affaiblit les conventions collectives dans le privé, il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas, en tout cas que le gouvernement Macron ne pense pas à les affaiblir dans le secteur public. Donc vous avez raison madame, il y a un vrai risque aussi dans la fonction publique, mais pas directement lié à la loi d'habilitation, mais dans ses conséquences. Puis il y a un risque aussi concernant la question de la pénibilité, puisqu'on vient de transposer la pénibilité dans la fonction publique, et elle vient d'être mise par terre dans la loi d'habilitation, donc on peut penser effectivement que la reconnaissance de la pénibilité va concerner aussi bien le public que le privé.
En tout cas, merci de votre question, Marilyn, parce qu'il y en a beaucoup des questions de fonctionnaires qui se demandent si ça les concerne aussi. Au moins, on a pu répondre concrètement. Il nous reste à peine un peu plus d'une minute, même pas une minute. Je voudrais un petit mot, tiens, de votre part, pourquoi pas, sur les contrats de chantier. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour les chefs d'entreprise, que les contrats de chantier soient ouverts, Jean-Michel Potier ?
Les contrats de chantier existent.
Dans les chantiers, ils sont un peu étendus.
Voilà, tout à fait, ils existent notamment dans deux secteurs qui sont concernés par le mot chantier. Mais pour pouvoir étendre des contrats de chantier à d'autres entreprises, il y a encore une fois, il faut un accord de branche. Voilà. Donc c'est dans la branche professionnelle. La branche professionnelle sera là pour réguler, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence à l'intérieur de la branche. Et le contrat de chantier fait partie de ce périmètre.
Et merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. On voit que les débats non seulement ne sont pas clos, mais qu'ils passionnent les gens qui nous écoutent avec beaucoup de questions concrètes. Et merci beaucoup à vous aussi.